Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Notre frère Philippe est au Burkina toujours et ça se passe bien. Et là, ils s'apprêtent à aller au culte. Il y a 2 heures de différence entre eux et nous là-bas. Et ils vous saluent bien et voilà, que Dieu les bénisse, ça va aussi au culte. Les cultes là-bas sont beaucoup plus longs que chez nous. Et on souhaite tout plein de bonnes choses à Nicolas, Sally, les enfants et tous les frères et sœurs de l'Église qui vont certainement aussi écouter ma prédication aujourd'hui, à un moment quand ils auront le temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va ce matin étudier la parole de Dieu. On va lire pas mal de versets bibliques ce matin. Vendredi soir, vous vous rappelez, je vous parlais de la simplicité de l'Évangile. C'est pas que j'aime pas l'Ancien Testament. Je lis l'Ancien Testament tous les jours et je le médite. Mais nous avons une nouvelle alliance faite dans le sang précieux de Jésus, scellée. Et une bonne partie de l'Ancien Testament ne nous concerne plus du tout, pas plus que la charia des musulmans. Il faut être clair. La charia, c'est dans l'islam l'énoncé de diverses normes, règles doctrinales, sociales, culturelles, relationnelles. Le terme charia signifie, dans le contexte religieux, donc de l'islam, chemin pour respecter la loi de Dieu. La charia codifie à la fois les actes publics, les aspects publics et privés de la vie des musulmans. Pour nous, Jésus est le chemin. Pour nous qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes au bénéfice de l'alliance qu'il a passée avec nous. Les musulmans croient ce qu'ils veulent, les juifs croient ce qu'ils veulent, voilà. Au temps de Jésus, la religion officielle n'était pas le judaïsme. La principale religion était le pharisianisme. Et il suffit de lire le Nouveau Testament et en particulier les 4 évangiles pour s'apercevoir que Jésus n'aimait pas du tout les cultes religieux de son époque. Le pharisianisme enseignait la loi de Moïse, mais pas que. Le pharisianisme enseignait aussi une loi orale, c'est-à-dire une loi qui se transmettait d'ancien à ancien. Voilà. Cette loi orale n'a finalement été écrite qu'aux environs de 500, 600 après Jésus-Christ. Ça a pris du temps. Ils l'ont écrite. Il y a 2 Talmuds. Il y a le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Et c'est surtout cela que les Juifs étudient aujourd'hui dans leurs écoles. Le pharisianisme du temps de Jésus est passé du talmudiste, cette fameuse loi orale qui a été mise par écrit, ça a passé donc du talmudisme, et le talmudiste est devenu le rabbinisme à l'époque médiévale, vers la fin du 5e siècle à la fin du 15e à peu près. Et puis le rabbinisme s'est modernisé petit à petit pour devenir le judaïsme d'aujourd'hui. Je simplifie, évidemment, je pourrais vous donner des dates, des noms, mais on n'est pas là pour ça, ce n'est pas mon propos. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que ce qu'on appelle une yeshiva, c'est un centre d'études, une école. Il y en avait une là où nous habitions à Sarcelles, où on étudie la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, c'est surtout ça qu'on étudie, mais c'est surtout aussi le Talmud. Et il est très intéressant de savoir, que très peu de chrétiens savent ce qui se trouve dans le Talmud. Alors ne vous y trompez pas, l'esprit pharisien est dans le Talmud. Et je peux, je pense sincèrement que la charia s'inspire du Talmud. La charia, c'est vers 600 après Jésus-Christ, et voilà, donc le Talmud était écrit, et je pense qu'il y a eu des fuites, et ils s'en sont beaucoup inspirés. Je peux vous dire ça parce que, bon, ben maintenant les choses sont... Comme dit la Bible, à la fin, tout sera rétabli, tout sera en lumière, et maintenant vous trouvez tout ça sur le net. Alors il y a du vrai, il y a du faux, c'est à vous de chercher, mais ce n'est pas là mon propos. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous sommes, nous autres chrétiens, nous avons une autre alliance. Celle que Jésus le Messie est venu nous apporter et qu'il a scellée dans son sang. Et savez-vous ce qu'il a fait avec toutes les lois dictatorial pharisianique? Eh bien, je vais vous le lire, ce qu'il a fait. Vous prenez vos Bibles dans Colossiens 2, 8, 19. J'ai choisi de lire dans la parole vivante, la traduction suisse de l'équipe du pasteur Alfred Kuhn. Et je vous lis dans Colossiens 2, à partir du verset 8. Voilà ce qui est écrit. C'est Paul qui parle et qui dit « Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une, entre guillemets, philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde. Tout humaine et élémentaire. Et elles n'ont rien à voir avec Christ. Or, c'est en lui seul et dans son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Étant uni à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle de Christ, qui vous dépouille de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été enseveli avec Christ et par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, vous êtes vous-même aussi ressuscité avec lui. Oui? Vous étiez mort par vos fautes, égaré par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant à Christ, Dieu a fait revivre avec lui, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce, pur cadeau. Il a effacé l'acte aux mille actes qui nous accusaient. Là, il parle bien du Talmud, parce qu'il n'y a pas mille actes dans la Torah, hein. Mais dans le Talmud, mamma mia. Il a effacé l'acte aux mille actes qui nous accusaient, car il mentionnait toutes nos transgressions de la loi de Dieu, il l'a annulée et il l'a clouée à la croix. Il a démasqué puis désarmé les autorités et les dominations de l'enfer, il a exposé leurs faiblesses devant l'univers, il les a traînées derrière son char triomphal à la croix. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer un jour de fête, une nouvelle lune, des sabbats, enfin tout ce qui est dans la loi et dans le Talmud. Personne n'a le droit de vous imposer ça. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombres de choses à venir, et la réalité étant Jésus-Christ. Que personne ne vous méprise donc, ne vous laissez pas ravir la palme qui doit couronner votre course par ces gens qui font les humbles et voudraient vous entraîner dans leur culte des anges. Ils se rendent intéressants par des visions illuminées auxquelles ils donnent toutes leurs attentions. Avec cela, ce sont de pauvres orgueilleux, ridiculement enflés par leurs pensées matérialistes et charnelles. Ils omettent de s'attacher au chef, à la tête du corps. C'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul écrit. Il a effacé l'acte. Qu'est-ce que c'est un acte ? Un acte, c'est un contrat. Il a effacé le contrat que Dieu avait passé avec les hommes, avec la Torah, et puis ensuite que les hommes ont amplifié avec le Talmud. Il a effacé tout ça. Il a effacé cette alliance. Il a effacé l'ancienne alliance qui nous condamnait. Il l'a éliminée. C'est écrit, le mot est là. En clouant cela sur la croix. Vous voulez une explication de plus, je vais vous la donner. Romains 7 à partir du verset 7. Romains 7 à partir du verset 7. C'est Paul qui parle et ce texte est très mal compris parce qu'il faut comprendre que Paul parlait à des gens qui connaissaient justement la loi juive, le Talmud et tous ses principes et toutes ses traditions. Et voilà ce qu'il dit. 7-7. Faudrait-il en conclure que la loi et péché sont une seule et même chose? Certes, non. Mais par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce que les autres possèdent si la loi ne me l'avait pas dit. Si elle n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Je ne me serais jamais senti coupable sans cette déclaration. Mais alors le péché qui était en moi a trouvé dans le commandement une occasion de se manifester. Il s'en est forgé une arme contre moi. L'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a fait qu'exciter mes mauvais désirs. Or là où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Si dans la loi c'est écrit que tu dois te coincer les doigts dans une porte et puis tu ne veux pas le faire, ben c'est un péché. Tu désobéis à la loi en te coinçant pas les doigts dans une porte. Tu apprends par la loi ce qui est bien, ce qui est mal. Quand tu apprends ce qui est mal, ça attise en toi le désir. C'est net, c'est comme ça, même chez les animaux. Les bébés, vous leur interdisez de faire quelque chose, ils vont le faire tout de suite. C'est comme ça. Et l'apôtre Paul disait, « Ah, autrefois, avant d'être soumis à la loi, je vivais tranquille. » C'est ça la phrase clé. Autrefois, quand est-ce que l'apôtre Paul vivait sans la loi? Il vivait sans la loi de l'âge de sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, il devenait, d'après la tradition juive, d'après la loi, un adulte spirituel et il était responsable vis-à-vis de la loi. La loi prenait effet chez lui à partir de l'âge de 12 ans. Et c'est toujours la même chose chez les juifs. Alors il dit, « Ah, autrefois, avant d'être soumis à la loi, je vivais tranquille. » Ben oui, comme gamin, il vivait tranquille, il n'était pas responsable devant Dieu s'il faisait des bêtises. Mais dès que survint le commandement, le péché s'éveilla à la vie et moi je mourus. Vous comprenez? Je pris conscience d'être pécheur, parce qu'il a pris, il a connu la loi, il a connu qu'il était responsable s'il désobéissait. J'ai pris conscience d'être pécheur, c'est-à-dire un condamné à mort, puisque la Bible dit « celui qui pèche, c'est celui qui mourra ». Ainsi, la loi, qui devait me servir de guide sur le chemin de la vie, m'a en fait mené vers la condamnation et la mort. En réalité, le commandement devint l'instrument du mal qui a saisi cette occasion pour me séduire et me tuer, car la loi en elle-même est sainte, et chaque commandement est saint, juste et bon. Est-il donc possible que quelque chose de bon en soi ait des conséquences si néfastes? Le bien peut-il me faire mourir? Évidemment, non. L'auteur de ce crime, c'est le péché. Sa véritable nature devait être démasquée. Or, en me donnant la mort par une bonne chose, il a montré son vrai visage. Le péché a montré son vrai visage, le péché qui est en moi. À cause de par notre naissance, on est né dans le péché. Grâce au commandement, il est apparu dans toute sa virulence. Le péché est apparu dans toute sa virulence à cause de la connaissance de la loi. Sa nature foncièrement maléfique a donc paru au grand jour. La nature foncièrement maléfique du péché a paru au grand jour. Il dit ailleurs, or ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi, qui le fait. Il continue et il dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle, mais moi je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger, et voilà pourquoi je suis à la merci du péché qui a pris possession de moi. Et il continue. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Et beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça, « Ah, ben, je ne me comprends pas, j'arrive pas à comprendre. » Alors oui, je voudrais obéir à Dieu, puis je fais des bêtises et tout, il mélange là. Là, l'apôtre Paul est en train de parler du moment où il a commencé à connaître la loi, où il a commencé à vivre selon la loi de Moïse, à cette époque-là, quand il parle de l'époque où il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. C'est pas nous ça, nous connaissons Jésus-Christ. Mais lui, là, il parle de l'époque où il ne connaissait pas encore Jésus-Christ, où il était sous la loi. Je ne comprends pas moi-même, mon comportement me désoriente. Je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste à mon sens moral et que mon sens moral réprouve. Est-ce que l'apôtre Paul faisait des choses que son sens moral réprouvait? Non! Il parle de l'époque où il était sous la férule de la loi et du Talmud. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi, mon être profond l'approuve et reconnaît son excellence. Mais c'est plus fort que moi. Est-ce que c'est plus fort que nous? Non, il est en train de parler de l'époque où il était sous la loi, où il était sans la force du Saint-Esprit en lui. Ne vous attribuez pas ce verset pour vous excuser, pour faire vos péchés. L'apôtre Paul ne parle pas de ça. Il est en train de parler de l'époque où il était sous la loi. Et il dit, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais c'est le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Saint Paul. Il ne parle pas de lui en tant que Saint Paul, il parle de lui en tant qu'homme pharisien sous la loi qui a vu son péché se manifester au travers de lui. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. C'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Une force survenant sur nous pour nous aider à vivre une vie correcte. Mais lui, à l'époque, il ne l'avait pas. Il n'avait que la loi, le commandement qui lui faisait connaître ce qu'était le péché. Et il était, le péché étant ratisé, eh bien, voilà, il faisait des bêtises. Et il dit, je peux pas m'en empêcher. Je voudrais bien, mais je peux point. Il pouvait pas s'en empêcher. Il était sous la loi. Il n'était pas sous l'alliance de Jésus-Christ. Quand il parle de ça. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose. Je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ces sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine et en approuve joyeusement les exigences. Il aime la loi de Dieu, il trouve qu'elle est bonne, qu'elle est juste, mais il peut pas faire autrement que de pécher parce qu'il est sans le secours du Saint-Esprit, il est dans la loi, il n'y a que ça, la loi. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. C'est l'apôtre Paul sauvé qui parle comme ça? Non, c'est l'apôtre Paul qui explique comment il était, je le répète et je le redirai jamais assez, comment il était quand il était pharisien sous la loi. Quel déchirement terrible, il le dit. Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Point d'interrogation. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je résume ce que je viens de dire. Livré à moi-même et à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais de l'autre, je suis par mon être naturel esclave de la loi du péché. Mais grâce à Dieu, maintenant, par Jésus-Christ, je suis délivré de cette nature pécheresse. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Alors, est-ce que vous avez foi en ce que Jésus a fait à la croix? Croyez-vous vraiment, avez-vous foi qu'il a éliminé ce contrat qui nous condamnait et qui faisait que nous étions malheureux, tristes, on se sentait condamnés, incapables de faire le bien qu'on voudrait? Avez-vous la foi qu'il a éliminé ce contrat en le clouant à la croix? Est-ce que vous avez foi en ça? Est-ce que vous croyez ça? Si oui, la loi qui ne dit que de faire du bien n'a plus de pouvoir sur vous. Le pouvoir de la loi, c'est quoi? C'est de réveiller le péché qui est en vous. Quand Jésus était enfant, il allait à la synagogue. Et là, il y avait toujours un rabbin qui donnait des études sur le Talmud, la loi orale à la synagogue. Et c'est pourquoi, quand il a rencontré la femme cananéenne, non juive, il l'a traitée de chienne. Parce que ça se trouve dans le Talmud. Je suis désolé, ça se trouve dans le Talmud. Dans Erget Rashi Hérode 22-30. Renseignez-vous. Les chrétiens ne savent pas ce qu'il y a dans le Talmud. Mais c'est dans le Talmud que c'est écrit que vous qui n'êtes pas juifs, vous êtes des chiens. Puis c'est avec ça. Un non-juif est comme un chien. Un chien ne mérite pas de respect. Voilà ce qui est écrit exactement. Mais Jésus a été touché par la foi de cette femme et il a guéri, je crois que c'était sa fille qui était malade. Pourquoi les disciples de Jésus, par exemple, ont-ils demandé si l'homme qui était né aveugle, si c'était à cause de ses parents, du péché de ses parents, qu'il était aveugle? Vous trouvez ça dans Jean chapitre 9, verset 2. Pourquoi ils ont posé cette question? Eh bien, parce que les apôtres, avant de connaître Jésus, eh bien, ils avaient été à la synagogue. Et à la synagogue, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Eh bien, le bon rabbin qui prêchait que Moïse avait dit, dans Deutéronome 28, 15, 18, que si tu désobéis à la loi, tu es maudit, toi et ta descendance après toi. Ce qui fait dire à un espèce de connard, pardon, mais c'est un véritable connard que j'ai écouté sur Internet, que si vous avez des enfants qui sont malades, c'est votre faute parce que vous avez péché. Ce pasteur prophète qui vient dire des imbécilités pareilles, est sous la loi. Ne l'écoutez pas, c'est un faux, c'est un méchant. Il a renié la grâce. C'est pourquoi je dis un gros mot, parce qu'il n'y a pas d'autre chose pour qualifier une telle personne. Vous vous rendez-vous compte? Vous êtes là, vous avez un de vos enfants qui est malade, et alors la loi de Moïse vous condamne en disant « Oui, c'est à cause de toi, parce que tu as péché. » C'est écrit dans Deutéronome 28, 15, 18, c'est écrit là. Si c'est écrit dans la Bible, c'est donc vrai. Non, c'est pas vrai. C'était vrai du temps de l'ancienne alliance, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini cette histoire. Les gens qui pêchent, la Bible dit, celui qui mange des raisins verts, c'est lui qui a les dents agacées, c'est pas son fils. Vous comprenez ça? Mais quand est-ce que les chrétiens vont arrêter de mélanger la loi et la grâce? Ah, elle est charmante, l'ancienne alliance. Ah, elle est charmante, la loi de Moïse. Ah, il est charmant, le Talmud, c'est merveilleux. Jésus répond, non, c'est pas à ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il a guéri l'aveugle. Voilà la nouvelle alliance. Amen. Vous voulez retourner dans l'ancienne alliance? Allez-y, foutez le camp. Allez-y dans l'ancienne alliance. Mais sachez une chose, vous êtes maudits si vous y allez. Parce qu'il suffit de désobéir à une loi pour se rendre coupable de toutes les lois de l'ancienne alliance. Vous ne me croyez pas? C'est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 10. Voilà ce qui est dit. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. C'est-à-dire, si tu as dit un mensonge, si tu as triché à l'école, c'est comme si tu avais été avec une prostituée, c'est comme si tu avais tué quelqu'un, tu es coupable de tous les péchés que la loi décrit. Vous voulez aller sous la loi? Mais allez-y, foutez le camp, débarrassez le plancher. Vous voulez aller sous la loi? Vous voulez retourner là-dedans? Mais allez-y. Mon Dieu. Mes frères et sœurs, fuyez ces prédicateurs qui font un plus ou moins habile mélange de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Il y a des très bonnes choses dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup lire l'Ancien Testament, mais je ne suis plus sous la loi de Moïse, c'est une dictature que je hais autant que Jésus l'a haïssé, il l'a haïssé tellement qu'il l'a éliminé, et il l'a cloué sur la croix. Amen. Fuyez les prédicateurs qui font ce mélange entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est de la prostitution spirituelle. C'est de la prostitution. Riri, t'es un prostitué. Suivons les injonctions du Saint-Esprit qui nous dit d'aimer. Celui qui aime, il accomplit toute la loi et les prophètes. Il n'y a pas de problème. Je vais vous lire Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu 7, 19. Ça va pas être ça. Voilà, c'est verset 12 plus exactement. Tout ce que vous serez, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cela résume l'enseignement de la loi et des prophètes. Vous savez ce que c'est, cette parole de Jésus-là? Peu de chrétiens le savent. C'est la 19e loi de la Nouvelle Alliance. Je vous en donne une autre. La 17e loi de la Nouvelle Alliance, c'est « Bannissez toute inquiétude ». La 18e, c'est un commandement, hein? La 18e loi, c'est « Demandez, continuez à demander et vous recevrez ». La 14e loi, c'est « Ce que vous faites pour Dieu, ne le faites pas pour la parade ». La neuvième loi de Jésus de la Nouvelle Alliance, c'est si quelqu'un te réquisitionne pour t'obliger à porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte ce fardeau sur 2 kilomètres pour lui. Ça veut dire fais-en plus que ce qu'on t'oblige à faire. Sois gentil et aie de l'amour. La douzième loi de Jésus, c'est témoigner de l'amour à vos ennemis. Bon, je ne vais pas vous les dire toutes, mais je vous dis la première loi, par exemple, de Jésus, qui se trouve dans Matthieu 4, 17, c'est « Repentez-vous », c'est la première loi de Jésus. Et la dernière loi, c'est la 51e loi, se trouve dans Matthieu 28, 19. Je vais vous la lire dans le texte, Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voilà une loi de Jésus. Rien à voir avec l'Ancienne Alliance, ou avec le Talmud, ou avec la Charia. Aimez. Vivez selon l'esprit de Jésus qui aimait, selon les bonnes lois d'amour de Jésus. Ainsi, vous accomplirez sans dictature la loi et les prophètes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de permettre que mes frères et sœurs puissent comprendre vraiment ces choses-là et se détournent de tout faux prophète, tout faux pasteur, tout faux enseignant, qui vient radoter des histoires complètement idiotes par manque de connaissances ou par méchanceté. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.